Good Morning Business, Business Plan.
Et à 7h45, on part à Taipei en direct avec Jean-François Dimilguillo, le président d'Asia Centre, qui est avec nous. Merci Jean-François d'être en direct dans Good Morning Business. On va évidemment parler de ce G7 anti-Chine. Hein. En tout cas, c'est comme ça que certains membres du G7 veulent le présenter. Emmanuel Macron a dit attention à ne pas trop ostraciser les Chinois. Tout est fait pour, quand même, entre l'accord sur les semi-conducteurs pour relocaliser plutôt vers le Japon et d'autres pays asiatiques que la Chine. L'accord, les négos commerciales, on vient de voir qu'il y a un accord entre les Américains et les Taïwanais. Comment vous percevez-vous ce sommet du G7 depuis Taïwan ?
Écoutez, il est assez intéressant, je dirais, même si on le regarde dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous aurez noté qu'au même moment, ce G7 préoccupe tellement la Chine que la Chine s'est mise en tête d'organiser un contre-G7 avec Xi'an, un lieu hautement symbolique qui est l'un des aboutissements de la route de la soie, avec tous les pays d'Asie centrale réunis autour de Xi Jinping. Et donc, on a effectivement une symétrie qui souligne l'insistance de ce G7 anti-Chine. Ceci étant dit, les positions des membres du G7 qui tentent à s'aligner sur les États-Unis, parce que un G7, c'est avant tout à l'ombre des États-Unis, on peut dire, même si c'est au Japon cette fois-ci, tous ces membres du G7 ne sont pas totalement alignés entre eux, naturellement. On sait que la position de la France vis-à-vis de la Chine est, le moins qu'on puisse dire, ambiguë à la suite de la visite du président Macron. Et si elle n'est pas ambiguë, en tout cas, elle plaide pour l'autonomie stratégique, même si cette autonomie stratégique n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour et qu'il nous faudra 2 ou 3 ans pour la construire. On voit donc que c'est un G7, bien sûr, qui irrite et qui est identifié par la Chine comme anti-Chine, mais qui est un G7 probablement moins unifié qu'il n'y paraît lorsqu'on entend les déclarations. Ce qui est important, c'est qu'il ait lieu en Asie, qu'il ait lieu au Japon. Il faut rappeler que le G20 avait vu, bien sûr, l'émergence de l'Asie, puisque le G20 était à Bali, mais que le Japon avait fait pâle figure, pourrait-on dire, au G20 de Bali. Et là, c'est le retour du Japon, en particulier avec ce qui a été mentionné précédemment, cet accord avec les Coréens, cet accord avec les Taïwanais. Le Japon revient au centre du jeu asiatique, et ça, c'est très important.
Si on sent que justement ces positions par rapport à la Chine, elles vont être au cœur du G7, on essaye aussi justement de diminuer la dépendance par rapport à ce pays, de construire de nouvelles routes d'approvisionnement. Vous pensez que là, tous les partenaires du G7 vont trouver peut-être plus d'accords, vont être peut-être plus en phase que vis-à-vis de la position pure face à la Chine ?
Oui, là encore, il faut être réaliste. C'est-à-dire que on peut dérisquer la Chine, c'est-à-dire qu'on peut diluer la dépendance vis-à-vis de la Chine, mais on ne peut pas découpler. C'est le grand débat, entre autres, que le président Macron a eu avec Ursula von der Leyen. On a aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ce qu'on pourrait appeler une réelle dépendance, en tout cas une interconnexion extrêmement forte. Donc, quelles que soient les directions qui sont lancées par le G7, et ce sont certainement des directions qui sont, on va le dire brutalement, anti-Chine, du fait des positions aussi qui sont prises par la Chine dans le risque de conflit dans cette région du monde où je me trouve précisément, du fait de la position dure qui est prise par la Chine, il est nécessaire naturellement de dérisquer. On ne peut pas rester en risque plein vis-à-vis de la Chine en termes de chaîne de valeur. Néanmoins, on ne peut pas totalement découpler. Il faudrait des efforts, il faudrait des investissements, il faudrait prendre d'autres risques qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles à prendre.
Jean-François Dimilguillo, on a appris il y a quelques minutes cet accord sur les négociations commerciales entre justement Taïwan et les États-Unis. C'est sans doute le prélude hein, à un accord commercial, un accord de libre-échange. Est-ce qu'à un moment donné, c'est peut-être très naïf comme question et c'est peut-être pas très courageux, mais est-ce que là on n'est pas en train d'excéder les Chinois et est-ce que quelque part il n'y a pas un risque de susciter l'envie de la Chine d'en découdre?
Bon, la question est à la fois simple et compliquée, si vous voulez, pour parler comme le capitaine Haddock. C'est-à-dire que elle est compliquée parce qu'il n'y a pas de situation noire et blanche. Il ne s'agit pas de faire attention à irriter la Chine ou pas. Les interconnexions entre Taïwan et la Chine elle-même sont très fortes. Et c'est d'ailleurs l'une des protections en faveur de Taïwan, c'est que la Chine est tellement dépendante de Taïwan qu'aujourd'hui, un clash, quelque chose de violent et quelque chose que l'on peut envisager qu'avec énormément de prudence. Et donc, il faut que nous, occidentaux, nous prenions conscience de ça. Faire quelque chose en faveur de Taïwan, comme les États-Unis ont très bien fait de le faire avec ce geste qui était attendu depuis très longtemps, d'une part, et c'est la partie simple de l'affaire, montre à quel point cet endroit du monde est important pour nous, et ça c'est simple, et il faut le faire, mais c'est aussi compliqué parce que on n'irrite pas la Chine si on fait ça, parce que la Chine a aussi intérêt à ce qu'il y ait une certaine prospérité à Taïwan et qu'il y ait une certaine présence, une empreinte de Taïwan dans le monde. Les interconnexions sont très fortes et il ne faut pas raisonner en termes aussi simples que si on fait ça, on va hériter la Chine. La Chine sait parfaitement aussi où son intérêt. Il est dans de bonnes relations avec l'Occident et c'est effectivement ce que l'on peut observer dans les derniers mois, dans le retournement de position d'un certain nombre de dirigeants chinois et aussi, on peut dire, la cour qui a été faite au président français lorsqu'il est venu en Chine. Ça n'est pas par hasard, c'est bien sûr parce que la Chine a besoin d'alliés, ou en tout cas d'appui, non pas d'alliés probablement, mais d'appui et de soutien que l'on a en Occident.
Merci beaucoup Jean-François Dimiglio, président d'Asia Center. Passionnant comme d'habitude, Jean-François, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Taipei ce matin. Dans 10 minutes, on sera en direct d'Hiroshima avec Mathieu Coache.